Attention, attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7,
6,
5, 4, 3, 2,
la radio sauvage. 1,
0.
Quelle heure est-il ?
6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures.
Avant minuit.
Yes, man.
C'est 7h minuit, alors je suis pas bon.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab.
La radio sauvage.
Il est 6h avant minuit, mercredi 17 décembre 2025. Vous écoutez l'émission d'info locale de Syllab et c'est bientôt les vacances. Et si vous ne savez pas quoi faire entre Noël et le Nouvel An, pourquoi ne pas visiter Rennes autrement ? Autour de la table, est-ce que vous connaissez un peu l'histoire de Rennes sous l'occupation ?
Pas du tout.
Pas des masses.
Raconte-nous.
Ça tombe bien. Le samedi 27 décembre, un guide conférencier enfilera un costume de journaliste breton des années 40, un journaliste résistant qui parcourra à vos côtés les lieux emblématiques de la résistance locale, du jardin Saint-Georges aux rues du Vieux-Rennes. La visite d'1h30 vous aidera à mieux comprendre l'histoire de la capitale de la Bretagne. Inscription en ligne sur epoquetour.fr, époque avec un K. Le tarif plein est de 15€ et il y a des réductions pour les étudiants et étudiantes et les plus jeunes, vous le saurez. En attendant, si l'histoire bretonne de la Deuxième Guerre mondiale vous intéresse, vous pouvez toujours écouter ou réécouter notre podcast sur les 80 ans de la libération de Rennes. Ça s'appelle Rennes libérée et c'est disponible sur c-lab.fr. Tout de suite, le flash d'Estelle.
Une journée d'avancée significative pour l'Union européenne. Londres et la Commission européenne ont annoncé aujourd'hui le retour du Royaume-Uni dans le programme Erasmus dès 2027. Le pays avait quitté le dispositif fin 2020 sous le gouvernement conservateur de Boris Johnson. Autre avancée, cette fois sur le terrain des droits des femmes. Le Parlement européen a adopté un texte appelant la Commission à faciliter l'accès à des avortements sûrs pour toutes les femmes du continent. L'interruption volontaire de grossesse reste très restreinte dans certains pays comme Malte ou la Pologne. Ce texte fait écho à une pétition citoyenne ayant recueilli plus d'un million de signatures. La Commission européenne s'est engagée à l'examiner d'ici mars 2026. Un bras de fer qui se durcit entre les États-Unis et le Venezuela. Hier soir, Donald Trump a annoncé l'instauration d'un blocus contre les pétroliers sous sanctions entrant et sortant au Venezuela. Une annonce faite sur son réseau social Truth Social. Cette mesure vise à asphyxier l'économie du pays dont le pétrole est le principal.
Une annonce, waouh ! Vas-y, finis de rigoler, on a envie de savoir la suite. Si tu veux pas, je peux finir ta brève.
Non, ça va aller.
Allez.
Et la principale source de... En réponse, le gouvernement Maduro parle d'une menace grotesque. Reste un flou sur la mise en œuvre concrète de ce blocus. Toujours dans la même soirée...
Allez Estelle, nous abandonne pas. C'est pas drôle en plus, non, les annonces
pas...
de Trump.
Non, c'est pas du tout... Enfin si, c'est un peu lunaire ce qu'il dit quand même, mais bon... Faut en rire mieux qu'en pleurer. Donc pardon, excusez-moi.
On va pas y arriver. Allez, courage, allez. Il te reste un flash avant les vacances.
C'est le dernier.
Tu peux aller au bout.
Merci, Héloïse. Trump a allongé, donc je disais, la liste des ressortissants étrangers interdits de séjour aux États-Unis. Elle comprend désormais les citoyens syriens, burkinabés, maliens ou encore palestiniens.
Allez, on va pas y arriver là.
Le ministère de l'Intérieur attaqué de l'intérieur.
Quoi ? C'est une blague ce flash, vous allez me buter.
La semaine dernière, dans la nuit de jeudi à vendredi, une entité encore inconnue aurait forcé l'accès à de nombreux fichiers importants pour le ministère. Ce matin, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a fait un nouveau point sur France Info. À l'heure actuelle, les revendications et les outils utilisés sont incertains. Ingérence étrangère, vengeance, imprudence du personnel, l'AFKEN revient sur l'affaire.
16,4 millions de Françaises et de Français, c'est le nombre de cyber-victimes que les hackers revendiquent. Invité sur RTL vendredi dernier, Laurent Nunez l'a confirmé. Il y a bien eu une attaque informatique contre le ministère de l'Intérieur la semaine dernière, dans la nuit de jeudi à vendredi. Problème, les pirates informatiques ont pu accéder à des fichiers.
Non, on est foutus.
Non, mais c'est le dernier.
Allez, pense à la France, Lafken.
La France. Dans la nuit de jeudi à vendredi. Problème, les pirates informatiques ont pu accéder à des fichiers. Non, en fait, c'est difficile. C'est difficile.
Vas-y, concentre-toi. 1, 2, 3.
C'est bientôt Noël.
Oui.
Comme celui du TAJ, le traitement des antécédents judiciaires, ou celui des personnes recherchées. Hier, une source proche de France Info l'a infirmé, c'est une attaque avérée et sérieuse.
Mais à quel moment cette attaque est-elle dangereuse pour la France? Quelles sont les conséquences de ce piratage?
Ça ne met pas en danger la vie de nos compatriotes, c'est ce qu'a assuré Laurent Nunez ce matin sur France Info. Des procédures de protection ont été mises en place.
Tu veux que je prenne le relais ou quoi?
Je suis désolée, Loïc.
Chers auditeurs, auditrices, je vais prendre le relais. Alors, on en était où? Donc, à quel point cette attaque est dangereuse, on disait, Estelle?
Exactement.
Ça ne met pas en danger la vie de nos compatriotes, c'est ce qu'a assuré Laurent Nunez ce matin sur France Info. Des procédures de protection ont été mises en place depuis, des mots de passe et des comptes ont aussi été supprimés. Mais malgré la volonté gouvernementale d'apaiser la situation, des spécialistes du hacking alertent. Pour Clément Domingo, alias SaxX, sur LinkedIn, une telle fuite pourrait mettre en péril la sécurité nationale. Parmi toutes les informations volées, on trouve des messages internes, des mots de passe du ministère et surtout le TAJ. TAJ, ça veut dire traitement des antécédents judiciaires. Dans cette base de données, on trouve près de 17 millions de fiches de mise en cause, dont certains n'ont pas été condamnés. Mais on trouve aussi près de 48 millions de fiches de victimes. Sur ces fiches sont inscrites toutes les informations liées aux personnes mises en cause, des crimes à certains délits, identité, adresse, photo, mais également des détails sur l'action illégale. Que vous vouliez travailler dans la SNCF, le transport ou la sécurité privée, c'est le TAJ qu'on vérifie. Le deuxième document piraté est encore plus sensible puisqu'il s'agit du fichier des personnes recherchées ou FPR. On ne sait pas énormément de choses sur les personnes y figurant, si ce n'est qu'elles sont activement recherchées par l'État, comme les fichiers S par exemple. Selon les derniers chiffres disponibles, on compterait environ 600 000 profils dans ce FPR. Ce week-end, un groupe a revendiqué l'action en menaçant de diffuser des informations sur près de 16 millions de Françaises et Français. Ils préviennent, l'impact ne ressemblerait à rien de ce que la France a connu auparavant. Cependant, le spécialiste en cyberattaque Valérie Marchive reste prudent sur les revendications des hackers. Invité sur France Info, il trouve intriguant que les hackers n'aient pas diffusé d'échantillons pour appuyer leurs propos, chose qui se fait habituellement dans le cyber-rançonnage. En parallèle, le ministère de l'Intérieur dit ne pas avoir reçu de demande de rançon et reste méfiant sur le chiffre de 16,4 millions de personnes qu'il juge abusif.
Pas de danger immédiat, semble-t-il. Pourtant, les pirates restent inconnus, non? Que sait-on de leur méthode d'action et de leurs revendications?
Oui, donc pour ce qui est des méthodes utilisées, Laurent Nunez dénonce un manque d'hygiène numérique de la part des fonctionnaires du ministère de l'Intérieur. Des mots de passe, par exemple, auraient été échangés en clair sur des messageries professionnelles. Comme l'a indiqué l'entrepreneur spécialisé dans la cybersécurité Baptiste Robert auprès de France Info, la faille peut venir de n'importe quel appareil physique, incluant ceux de tous les policiers et gendarmes de France. Pour lui, ce ne sont pas les premiers à vouloir attaquer le ministère de l'Intérieur, mais ce sont les premiers à avoir réussi. Côté identité, on ne sait que ce qu'ils ou elles ont accepté de diffuser. Tout semble partir du forum Bridge Forum, un forum donc qui avait été fermé par les autorités, notamment américaines. Le site était spécialisé dans le piratage et le partage de données, parfois confidentielles. Cet été, 4 Français connus sous le nom de Shiny Hunter ont été arrêtés après avoir tenté de rouvrir Bridge Forum. Samedi, un mail a été envoyé aux anciens utilisateurs et utilisatrices du site illégal. Le mail est signé Indra et revendique l'attaque du ministère de l'Intérieur. Dans leur message, les hackers annoncent des représailles contre la France pour venger leurs amis, les Shiny Hunters. Problème, les Shiny Hunters arrêtés ne revendiquent pas cette attaque, ni une dite amitié avec Indra. Lundi, les hackers ont reposté un mail non traçable. Ils y réclament une prise de contact rapide avec les autorités via Bridge Forum, sans quoi ils diffuseront tout en vendant les données à des agences ou organisations cybercriminelles.
Pour l'instant, impossible de savoir s'il s'agit réellement de cyber-rançonnage ou d'une vengeance, alors que les Shiny Hunters inculpés ne reconnaissent pas cette attaque. La piste de l'ingérence étrangère, elle, n'est pas exclue non plus. Certaines viennent pour l'art, d'autres pour la grève. Le Louvre d'aujourd'hui. Les salariés du Louvre ont décidé ce matin de poursuivre la grève débutée lundi. Lors de l'Assemblée Générale de ce matin, ils ont rejeté la proposition ministérielle et reconduit le mouvement. Malgré la grève, la direction du musée a annoncé une ouverture partielle. Les salariés dénoncent des problèmes de sous-effectifs, la dégradation des bâtiments et la hausse des tarifs pour les visiteurs non européens. Actuellement, la présidente du Louvre, Laurence Descartes, est auditionnée par la commission de la culture du Sénat sur les failles de sécurité qui touchent l'institution. Après un parcours mouvementé, le budget de la sécurité sociale a été voté par l'Assemblée nationale hier soir. 247 voix pour, 232 contre et 90 d'abstention. La suspension de la réforme des retraites est actée, tout comme celle de la taxe sur les complémentaires santé ou la durée des arrêts maladie, désormais plafonnée à un mois pour une première prescription. Une victoire arrachée par Sébastien Lecornu qui n'a pas eu recours à l'article 49.3. Les regards se tournent désormais vers le budget de l'État qui s'annonce encore plus complexe et dont l'adoption doit intervenir avant le 31 décembre. Une première mondiale signée par des Bretons, une fois de plus visionnaire. Hier, le CHU de Pontchaillou a mis en service une nouvelle machine pour le traitement de ses déchets, la plateforme logistique avancée, où sont centralisés les déchets défectueux. Cette automatisation permet au CHU d'économiser 40 000 euros par an, elle limite aussi la manutention et donc les risques d'infection pour le personnel. Les travaux ne s'achèveront toutefois qu'à la fin de la décennie avec d'autres innovations au programme. À terme, tout devrait être transporté en 20 minutes grâce à des véhicules automatiques déposant directement leur cargaison à l'entrée des bâtiments. Et cette semaine à Rennes, un Noël pas comme les autres s'est invité. Le Noël à case, qui signifie Noël à la maison en créole. Ce festival est une invitation à recréer un Noël ancré dans les traditions franco-caribéennes. Au programme, plusieurs temps forts ont eu lieu. Lundi, un atelier Marée Tête et mercredi, une soirée mêlant conte, poésie et musique avec des artistes rennais émergents comme Gordon, Kissy Hay, Sline ou encore Loulou Poetzy. Et si vous pensez être passé à côté, no panic. Une dernière soirée est prévue ce vendredi entre jeux, cuisine et danse. Pour y participer, contactez OneTime, N.Time sur Instagram.
Merci Estelle, t'es arrivée au bout. On passe à l'interview.
Quelle heure est-il ?
6h.
Minuit, pourquoi ?
Syllabe.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
Et à minuit, plus personne.
6h avant minuit.
C'est Roman qui pose les questions ce soir.
Oui, et aujourd'hui, nous mettons en lumière une initiative rennaise qui fait le lien entre solidarité, réemploi et engagement environnemental. Ce sont les hôtels solidaires. Et pour en parler, nous recevons Yvan Lebras, habillé d'un pull rayé bleu marine et rouge. Bonjour Yvan.
Bonjour.
Pour commencer, est-ce que tu peux nous rappeler ce que sont les hôtels solidaires ?
Les hôtels solidaires, c'est une association qui est née en 2018 à Paris, qui a été créée par quelqu'un qui était veilleur de nuit dans un hôtel parisien et qui voyait en fait tous les matins des denrées alimentaires qui étaient jetées à la poubelle. Et en parallèle de ça, plein de gens à la rue qui manquaient de ressources, notamment alimentaires. Et donc il s'est mis en tête de collecter en fait le reste des petits déjeuners dans les hôtels parisiens. Il se trouve que moi j'ai eu connaissance du projet en 2020 et j'ai souhaité monter une antenne de ce projet-là. Donc l'antenne rennaise est née en 2021. Elle a pour but très simple, c'est de collecter des denrées alimentaires et du mobilier dans des établissements hôteliers dont ils ne se servent plus ou alors qui sont voués à finir à la poubelle mais qui peuvent encore servir pour le mobilier notamment et de les redistribuer à des assos de solidarité du territoire rennais. Notamment, on a fait pas mal de distributions à l'épicerie gratuite de Rennes 2 qui intervient et qui fait un super travail sur le campus de Rennes 2.
Et comment t'es venue l'idée de monter une antenne à Rennes ?
Eh ben en fait, j'ai eu connaissance du projet par un reportage radio, comme quoi la radio peut amener de très bonnes idées, donc merci Célab.
Merci la radio encore.
Ouais. Et c'est un reportage sur France Inter, j'ai découvert le projet parisien et je me suis dit mais c'est vraiment top comme projet. Et en fait moi je suis rennais depuis 2008. Et j'ai vu l'augmentation du nombre d'hôtels, notamment d'hôtels de luxe, le Saint-Antoine, le Balthazar notamment, et de se dire, bah, cette augmentation-là, avec le couvent des Jacobins qui s'est créé place Sainte-Anne, bah, autant que ça se fasse en bonne intelligence. Et en parallèle de ça, j'ai aussi vu le nombre de personnes en situation de précarité augmenter, soit à la gare, même le nombre d'étudiants aussi qui sont dans la galère. C'est-à-dire, bah, voilà, moi, en tant que simple citoyen, je peux peut-être aider un peu. Et puis, j'avais l'envie à ce moment-là de faire quelque chose de concret, parce que j'ai monté pas mal de projets, notamment des projets culturels, et là j'avais envie de me lancer dans un projet un peu de solidarité où clairement, voilà, assez simple à mettre en place, et en mettant à disposition mes compétences un peu logistiques et les liens que j'avais déjà avec des hôtels là dans le cadre du boulot que je faisais.
Et il y a trois mots qui sont au cœur de l'ADN de cette association, c'est partager, valoriser, sensibiliser. Est-ce que tu peux les commenter ?
Partager, c'est le fait qu'on a tous voilà, des choses à disposition, notamment les hôtels, des denrées alimentaires qui ne sont pas mangées par les clients, ou alors du mobilier, des matelas, des coussins qui peuvent encore servir. Donc, les autres mots que tu avais dit.
Alors, partager, valoriser et sensibiliser.
Valoriser, c'est valoriser en fait tout le fait de se dire qu'un outil, un mobilier, n'importe quoi peut avoir en fait une seconde vie, voire même une troisième vie, et qu'avant de le jeter à la poubelle, en fait, ça peut quand même avoir un usage pour quelqu'un d'autre. Et le troisième mot...
Et le troisième, c'est sensibiliser.
Et sensibiliser, c'est le fait de, nous, à travers nos actions, on le dit régulièrement, notre but, c'est qu'un jour, les hôtels solidaires, ça n'ait plus besoin d'exister. Et que les hôtels, ils aient déjà un système en fait, de réemploi ou de redistribution qui est déjà en place. Nous, on fait un peu la passerelle logistique pour des hôtels qui peut-être manquent de temps ou n'identifient pas des assos à qui redonner, et des assos qui, elles, manquent de moyens humains, notamment pour venir collecter. Donc voilà, nous, à travers la démarche, on essaye aussi de raisonner un peu les pratiques, justement quand on a des hôtels qui, des fois, s'excusent de ne pas avoir des choses à nous donner, on leur dit « non, au contraire, ça veut dire que c'est pas parti à la poubelle », ou alors que ça a déjà trouvé une deuxième fonction quand on parle d'un meuble. Donc voilà, nous, l'idée, c'est... aussi, amener du positif et des bonnes idées, notamment aux établissements hôteliers et aussi aux assos avec lesquels on travaille, peut-être leur donner des lieux de ressources qui n'étaient pas identifiés jusqu'à présent.
Et en termes de chiffres, quel est le bilan de ces 5 dernières années d'activité à Rennes Métropole ?
Le bilan, il est positif. Alors, c'est vrai qu'on s'est amusé à identifier en fait, le nombre de viennoiseries qu'on avait collectées et le nombre de tonnes de matériel également qu'on avait collecté depuis le début. Donc ça fait 5 ans que le projet existe, on a collecté 17 000 viennoiseries, sachant qu'on a commencé la collecte de viennoiseries qu'il n'y a que 2 ans et demi, on ne le faisait pas au démarrage du projet. Et en termes de mobilier, on a collecté plus de 15 tonnes de matériel qu'on a redistribué à des assos du territoire. Et en fait, ça va très vite, puisque il y a notamment des hôtels qui nous ont contactés et qui changeaient l'intégralité de leur matelas. Dès qu'on récupère 100, 120 matelas d'un seul coup, ça fait du poids assez important. On voit qu'il y a vraiment des besoins parce que, notamment, les campements qui se créent chaque année, hiver comme été, ils ont besoin de matériel pour amener un tout petit peu de confort aux personnes qui y sont, si tant est qu'on peut parler de confort, mais voilà, un peu plus de dignité pour les personnes qui y sont. Et après, il y a des besoins globalement toute l'année pour Un Toit, C'est un Droit, Utopia 56, Habitat Humanisme. Voilà, c'est un peu toutes les assos avec lesquelles on travaille.
Est-ce qu'en 5 ans, vous avez remarqué des évolutions dans les besoins ? Est-ce qu'il y a eu plus ou moins de demandes, plus ou moins de participation des hôtels ?
Alors, du côté des associations qui ont besoin de ce matériel-là, malheureusement, on a recensé un besoin de plus en plus important. Donc, ce qui n'est pas un bon signe parce que ça veut dire qu'il y a de plus en plus de personnes en situation de précarité. Globalement de tous les besoins un peu qu'on a, tout le matériel qu'on peut collecter. Et après, de la part des hôtels, on identifie quand même un changement de génération au niveau des directions d'hôtels et des personnes davantage sensibles à la démarche. Ils sont aussi un peu poussés par leur clientèle, qui sont davantage à l'affût du fait d'avoir... On voit de moins en moins dans les hôtels, par exemple, des produits d'hygiène à usage unique. On est plutôt sur des éco-pompes. Au niveau des denrées alimentaires, il y a aussi une réduction et c'est moins pléthorique, on va dire. Donc voilà, ouais, on voit une évolution, mais le chemin est encore long parce que dans les standards hôteliers, la moindre tache ou le moindre trou dans un matelas fait que le matériel n'est plus utilisé. Et, sauf que pour nous, ça peut encore avoir un usage et pour n'importe qui, avoir une petite tache sur son matelas, on peut quand même lui donner encore pas mal d'années d'existence.
Et ce sont des associations partenaires qui distribuent ensuite les dons aux personnes en situation de précarité. Comment ça se passe, cette collaboration ?
Eh bien, ça se passe très bien, parce qu'on a la chance sur le territoire d'avoir des Rennais. Et globalement, les Rennais, c'est quand même très sympa. Et puis, en fait, on travaille en bonne intelligence. L'idée, c'est pour nous, Hôtel Solidaire, c'est de venir en soutien aux assos du territoire, qui déjà travaillent entre elles. Il y a de l'entraide entre le Secours Populaire, la Croix-Rouge, Habitat Humaniste, Utopia 56. Ils se filent des coups de main entre eux. Donc en fait, nous, tout simplement, quand on a du matériel qui est collecté, on contacte l'ensemble de ces assos. Et après, ils nous indiquent en retour les besoins qu'ils ont. Donc soit ils viennent collecter directement à notre local de stockage qui est situé à Béton et qui est mis à disposition grâce à Rennes Métropole, ou alors on vient donner directement aux assos qui n'ont pas de véhicule ou qui manquent de temps ou de moyens humains pour venir redistribuer. Donc ça se fait de manière hyper, hyper simple, hein. Clairement, c'est de l'échange par message, par mail. L'idée du projet, c'est de travailler un peu en bonne intelligence et de manière raisonnée. Donc on a volontairement pas voulu amener une lourdeur administrative. Là, jusqu'à présent, n'importe quel hôtel peut s'intégrer dans la démarche. Il n'y a pas de demande d'adhésion. Pareil pour les assos. Et au préalable, on regarde quand même si les assos, elles ont une vraie action sur le terrain. Il se trouve que de par leur notoriété malheureuse et le fait qu'on les identifie bien, on sait que c'est des assos de confiance et que le matériel qu'on va leur donner va vraiment aider des personnes en situation de précarité.
Depuis 2021, les hôtels solidaires portent aussi un message environnemental autour du réemploi avec des ateliers solidaires. Qu'est-ce que c'est exactement ?
Alors ça, c'est des ateliers qui sont plutôt portés par l'équipe parisienne. Il se trouve que voilà, nous, les deux antennes ont une organisation un peu différente parce que sur Rennes, on est 100% bénévole. Et depuis peu, on a deux volontaires en service civique qui viennent épauler le projet. Sur Paris, là, il y a eu, dès le démarrage du projet, il y a eu des salariés qui ont pu venir épauler le projet. Ils sont montés jusqu'à 8 salariés à un moment. Donc ça a dû diminuer malheureusement à cause de la baisse des subventions. Les ateliers qui sont mis en place au sein des Hôtels Solidaires Paris, c'est notamment à destination des établissements hôteliers où en fait ils vont intervenir dans les hôtels, auprès des collaborateurs ou même des directions d'hôtels, pour leur parler réemploi, gaspillage alimentaire et les sensibiliser à la démarche. Donc c'est aussi comment nous, on peut intervenir auprès des hôtels pour qu'ils aient des meilleures pratiques. Il y a déjà pas mal de choses qu'ils savent, mais le fait de prendre du temps et de se pencher sur la question pendant un ou plusieurs jours leur permet d'imaginer plus concrètement des solutions et aussi, en bout de parcours, il y a des choses dont ils ne peuvent plus se servir. Bah, c'est comment leur donner une deuxième vie ou à minima les inscrire dans le bon circuit de gestion des déchets. Parce que nous, les premiers, si on ne met pas les déchets recyclables dans le bon bac, bah, ça ne va pas dans le recyclage. C'est pareil pour ce qui se trouve dans un hôtel. Et donc, il y a des acteurs autour de nous qui nous permettent aussi de faire en sorte que le métal, l'aluminium, tout ce qu'on trouve globalement dans des composants, se retrouve dans le bon bac et ne soit pas détruit et génère encore plus de consommation d'énergie, quoi.
Est-ce que ces projets qui sont pour l'instant que sur l'antenne à Paris, ça pourrait être un projet pour Rennes dans le futur ?
Ouais, ça pourrait être complètement. Hein, sur Rennes, on se permet plein de choses. Ce qui nous manque, c'est du temps et des moyens humains pour mettre ça en place. À Rennes, on a voulu y aller étape par étape. Notre objectif, c'est quand même de pouvoir maintenir le projet. Qui aujourd'hui est vraiment porté par des équipes bénévoles et depuis peu par des volontaires en service civique. Mais on y va étape par étape, mais clairement, ouais, c'est des choses qu'on pourrait mettre en place. C'est juste qu'on est, plutôt dans l'objectif aujourd'hui d'avoir davantage d'hôtels dans le réseau et de faire en sorte qu'il y ait davantage d'hôtels qui se mobilisent pour nous donner les choses dont ils n'ont plus l'usage. Et après, dans un second temps, on imaginera des ateliers, ouais.
Et tu viens de le dire, depuis octobre, sur l'antenne de Rennes, l'équipe s'est élargie et a doublé ses jours de collecte. Pourquoi avoir choisi de recruter des services civiques ?
Alors, il se trouve que moi-même, j'ai été volontaire en service civique il y a 14 ans. C'était au démarrage du service civique, donc j'avais gardé une très très bonne expérience de ce volontariat. Le service civique, en fait, ça permet pas mal de choses. C'est un engagement qui est un peu différent d'un stage ou même d'un contrat. Globalement, économiquement parlant, on ne pouvait malheureusement pas se permettre de créer un contrat salarié. Donc c'est aussi pour des contraintes économiques qu'on est parti sur cette solution-là. Mais le volontariat, il permet aussi d'accueillir des jeunes qui viennent peut-être avec un œil neuf, qui ne sont pas dans un cursus scolaire, qui vont venir avec peut-être davantage de liberté et aussi re-questionner le projet. C'était intéressant aussi pour moi qui suis à la coordination du projet Rennais, d'avoir des personnes qui vont peut-être venir le titiller, lui amener aussi un peu davantage leur grain de sel, là où une personne en stage, pour avoir recueilli aussi pas mal de stagiaires dans un cadre professionnel, vont peut-être être en attente d'avoir des missions à faire, là où un volontaire, d'autant plus que Lucas, qu'on accueille à 25 ans, et Tabara, elle a la vingtaine, sont aussi dans des périodes de leur vie où il y a des envies et attentes différentes, donc ils y mettent vraiment leur grain de sel, et ça, je trouve ça cool. Donc c'est une approche aussi que je trouvais intéressante. Et c'est vrai qu'il y a un accompagnement de l'État qui nous permet aussi voilà, d'aller plus loin et sur des périodes plus longues, puisque là, les deux volontaires qu'on accueille sont pendant 8 mois au sein de l'asso pour Lucas et 6 mois pour Tabara.
Et enfin, quels sont vos projets et ambitions pour les prochaines années à venir ?
Eh ben notre ambition pour les années à venir, c'est qu'un jour, on n'ait plus besoin de nous. Mais bon, c'est une ambition un peu vaine. Clairement, c'est d'augmenter le nombre d'hôtels dans le réseau et donc d'augmenter le nombre de collectes qu'on fait au sein des hôtels. Et puis en espérant qu'il y ait de moins en moins de besoins sur le territoire. Mais ça, pareil, on n'y croit pas trop malheureusement. Mais globalement, ouais, c'est que clairement, les hôtels rennais, ils se disent « Ok, j'ai des choses à donner ». Il y a une asso à qui je peux faire appel, ou alors qu'elle contacte directement une autre asso du territoire, hein, pas forcément nous, mais être sûr qu'il y ait de moins en moins de choses qui terminent à la poubelle, en premier lieu les denrées alimentaires et en second lieu tout ce qui est mobilier.
Comment les hôteliers et les hôtelières rennaises peuvent s'engager à vos côtés ?
Eh ben, il suffit de nous contacter sur l'adresse rennes@leshotelssolidaires.fr ou alors via mon numéro de téléphone qui est sur le site internet des Hôtels Solidaires. Nous envoyer un petit message en disant « J'ai des choses à donner, je trouve la démarche trop chouette. » On les recontacte, on cale voilà, dans l'échange, on cale éventuellement un rendez-vous pour caler un temps de collecte et ça se fait tout simplement, quoi.
Eh ben merci beaucoup à toi Yvan d'avoir été avec nous pour revenir sur les 5 ans de l'antenne rennaise des Hôtels Solidaires. Donc si vous êtes hôtelier ou hôtelière et que vous souhaitez vous engager dans cette aventure solidaire, vous pouvez rejoindre l'association rennaise via l'adresse mail que tu viens de dire, rennes-leshotelssolidaires@gmail.com.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
6 heures avant minuit.
Dans sa chronique Dans la sauce, Cess poursuit sa visite des petits commerces rennais qui permettent de bien manger et pas seulement avec nos papilles. Cette fois-ci, rencontre avec Clémence alias Clé-Clé du Café Cantine Enfant Terrible.
On voulait un lieu où on pouvait être le plus inclusif possible pour certaines communautés. On voulait aussi un lieu qui propose du vegan et du végétarien pour que tout le monde puisse manger. On a ouvert un peu le sans gluten ces derniers temps justement pour continuer là-dedans. On a du coup un petit café, on va dire assez militant.
Et qu'est-ce que tu aimes dans ta carte, Clé?
Ça fait rire mes clients, il y a beaucoup de choses que je cuisine que je n'aime pas du tout. Du coup, c'est Marine qui goûte, pour être sûre, mais par exemple, je déteste la patate douce. Mais j'en mets beaucoup, parce que ma clientèle adore ça, donc bon, voilà. Moi, quand je mange ici, ce que je préfère manger, c'est quand même mon curry, parce que moi, j'aime la cuisine très très épicée, même si je le fais assez doux ici pour ma clientèle. J'aime voilà. Beaucoup les cookies aussi, et le flan vegan, parce qu'en fait, enfin, moi je peux manger un peu de fromage ou autre chose comme ça, mais ça me fait tout de suite très mal au ventre. Et le flan, j'adore ça, du coup en vegan il me fait pas mal au ventre.
Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui pensent que la cuisine vegan, c'est pas accessible ?
C'est vrai qu'on voit beaucoup le vegan avec beaucoup de graines, beaucoup de préparations avant, de choses à laisser gonfler, infuser ou quoi. En fait, pas tant que ça. Il y a vraiment des recettes très très simples et très accessibles partout sur internet déjà. Et en plus, aller au plus simple, c'est vraiment ne pas se foirer entre guillemets. Effectivement, pour tout ce qui est gâteau, il y a un peu une technique pour transformer les œufs en gros. C'est le plus chiant. Mais en fait, il y a plein de techniques avec des graines de chia, du jus de citron, tout comme ça pour faire bien gonfler le gâteau. Et la cuisine vegan, c'est de la patience, mais pas si compliqué que ça au final. Il faut sauter le pas, il faut savoir quel lait végétal on veut mettre. Est-ce qu'on va souvent vers le lait de soja, mais il y a un petit côté acide parfois dans le lait de soja. Donc voilà, faut vraiment doser. Mais il y a plein de choses en vegan qu'on peut faire qui sont très très bonnes. Quoi.
Et est-ce que cuisiner du vegan, ça a été compliqué à défendre lors du montage du projet ?
Il y a eu beaucoup de gens qui m'ont dit « En fait, il faut quand même que tu proposes une option avec de la viande. » Moi, j'ai dit « Non, je ne ferai pas ça. » Tout le monde peut manger où il veut. Mais pour moi qui ai été longtemps végane, bah, aller dans un restaurant, c'est toujours compliqué. Alors qu'ici, bah, tout le monde peut manger. Les gens qui ne mangent pas de viande, ils peuvent faire un repas sans viande. Et les personnes qui sont véganes ou qui ont des intolérances, ou qui c'est pas un choix vraiment sociétal, le véganisme, bah, ils peuvent manger tranquillement. Le banquier ne nous a pas trop empêté sur le végane. Par contre, les personnes qui nous ont aidés à faire l'étude de marché, c'était des étudiants et leurs professeurs n'arrêtaient pas de dire aux étudiants « Dites-leur quand même de faire de la viande. » Et nous, on était là « Non, on ne fera pas ça. » Finalement, quand on a ouvert, on a trouvé notre clientèle tout de suite. On a été pendant un moment une référence aussi pour plein de gens qui ne sont pas du tout véganes, mais qui venaient ici en disant « à chercher un gâteau pour l'anniversaire de telle personne qui est végane et tout. »
Si tu devais choisir un seul mot pour décrire Enfant Terrible, ce serait lequel ?
Moi, je dirais rassurant. Mais c'est vraiment très personnel, parce que moi, je suis rassurée d'avoir encore ce lieu au bout de 4 ans. Je suis rassurée quand je viens ici et que j'ai mes repères et que les gens sont toujours assez contents de manger ce que je fais, à titre personnel. Je suis rassurée de voir que certaines personnes le voient encore un peu comme un refuge un peu rassurant où ils viennent. Et moi, je suis rassurée de pouvoir aussi adapter mon monde de travail à mes besoins de neuroatypique, par exemple, ou des choses comme ça.
Pour soutenir et faire perdurer ce refuge tout en se régalant d'un flan dénué de toute agressivité lactée, vous pouvez aller au 30 rue d'Entrain à deux pas de Sainte-Anne. Merci Cesse. Et si on écoutait le répondeur Estelle, maintenant que t'as fini de rire, peut-être que tu peux appuyer sur play.
C'est parti, j'appuie.
Le téléphone.
Allô ? Allô ?
Syllab, la radio sauvage.
Coucou l'équipe de 6h avant minuit, c'est Benoît de Saint-Malo, donc fidèle auditeur de Syllab et fidèle bénévole. Bon, fidèle, oui, il faut dire ça, voilà. Donc, vu que les fêtes de fin d'année approchent, donc pour ceux qui voudraient en profiter un peu des derniers concerts de l'année 2025, il y a un concert que j'ai trouvé aujourd'hui. Il s'agit d'un concert avec deux groupes locaux. Donc, si je dis pas des bêtises, alors apparemment c'est le festival c'est le festival des Pies qui chicanent, donc qui organise ce concert là. C'est un concert de groupe rennais, donc alors en premier bien sûr il y a le groupe Mid Green, donc un groupe indie rock qui est mélange entre pop rock, électro, jazz, un peu des styles comme Can, Redhead, Northwest ou Radiohead, donc vraiment un truc bien sympathique. Et puis je crois qu'ils sont passés au Transmusica de Rennes, mais il y a longtemps, je crois que c'était peut-être l'année dernière ou il y a 2 ans, donc voilà. Et puis bien sûr le deuxième groupe qui est Vicky Verino, donc Vicky Verino, on connaît la leaderuse du groupe qui est Nikita, donc une artiste drag queen qui est dans ce groupe, qui a participé plusieurs fois au Transmusica de Rennes, à Bar en France ou au Festival Life en Rennes. Donc, c'est deux belles affiches à voir ce samedi. Donc l'adresse pour le concert se situe au Dada Café Restaurant. Donc, c'est pas très loin du Triangle. Donc, voilà, je suis juste à côté, hein, sur 61 avenue des Pays-Bas. Donc, c'est vraiment la porte à côté. Donc, voilà, c'est voilà, le concert, c'est ce samedi 20 décembre à 20h30. Ensuite, bien sûr, j'ai entendu parler récemment de Festival qui est de base un petit concert, plutôt un festival nantais, mais qui est sans Rennes, bien sûr, organisé par le Secours Populaire, hein, qui s'appelle Les Rockeurs ont du cœur. Donc c'est un concert associatif solidaire, donc organisé par le Secours Populaire. Donc c'est vendredi 19 décembre à 19h jusqu'à minuit, et puis c'est à la salle de l'étage, donc c'est juste en haut de Liberté, donc voilà. Et dans ce programme, dans la programmation pour ce concert solidaire, il y a le groupe La Phase, il y a le groupe Mondrag, qu'on connaît vraiment parce qu'ils sont venus plusieurs fois sur Rennes, et puis c'est un peu comme un groupe local, donc voilà, il y a le groupe Outrage, il y a le groupe Rose Corail, donc un trio féminin que je trouve vraiment super, hein, que j'ai écouté récemment dans ma voiture en faisant l'aller-retour Rennes-Saint-Malo. Et bien sûr, un groupe que j'ai découvert cette année grâce à un ami qui est animateur sur Canal B, c'est David Bucca, de l'émission Allo à fond de Rennes le vendredi soir à 21h30. Et bien, il a un groupe qui s'appelle Black Boys on Moped, donc Black Boys Moped, qui sont passés récemment à un petit festival à côté de Dinan, donc que je ne sais plus le nom, et que j'avais vu pour la première fois à l'étage, et vraiment, ça m'a mis une paire de claques. Donc voilà. Donc si vous voulez aller au concert Les Rockeurs ont du cœur, et ben c'est ce vendredi 19 décembre à 19h à l'étage. Et l'entrée, je peux vous dire l'entrée, c'est 10 €, donc 10 € est égal à une peluche. Donc voilà, pour les enfants qui ont besoin d'avoir un peu un beau cadeau de Noël ou un beau peluche ou autre, mais vraiment voilà, pour un peu terminer l'année 2025 en beauté. Voilà, allez, je vous embrasse très très fort, et puis bonne émission pour jeudi soir, spécial Noël, et puis voilà, je vous souhaite à tous une très bonne fête de fin d'année, et puis la bonne année pour la bonne année pour 2026. Voilà, allez, je vous embrasse très très fort, ciao.
Mais merci Benoît, la bonne année à toi aussi. Faites comme Benoît, 02 30 96 25 35 pour nous laisser un petit mot, nous donner une idée de sujet, nous raconter ce qui se passe près de chez vous, faire des retours sur nos émissions, sur les fous rires d'Estelle et Lafken, enfin lâchez-vous quoi. 02 30 96 25 35. Et demain, c'est la dernière 6h avant minuit de l'année. Pour l'occasion, on organise une collecte pour les associations Cœur Résistant et Esquisse. Donc, boissons chaudes, aliments festifs, ingrédients de base pour préparer des bons plats chauds, vêtements chauds, surtout pour les hommes, couvertures, oreillers. Pour donner tout ça, rendez-vous dans nos locaux sur le campus Villejean Bâtiment et Rêve, 2e étage. Et pour plus de détails, je vous invite à consulter la publication sur notre page Instagram, 6h avant minuit sur Silab. La récolte sera transmise aux assos demain, car elles seront interviewées lors de leur passage dans 6h avant minuit. Merci pour votre générosité et à demain. Merci Maud pour la technique.
Radio Sauvage.
Et le reptile.
Et 6h exactement.
Avant minuit.
Qu'est-ce qui se passe?
Eh ben il est 6h.
Le magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue.
6h. Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs du temps.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Silab, la radio sauvage.